Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Alain Damasio. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Alain Damasio, vous êtes écrivain de science-fiction. Vous avez reçu déjà en 2006 le Grand Prix de l'Imaginaire. Vous avez signé au printemps dernier un livre dont on a beaucoup entendu parler. Un grand livre politique, un grand livre poétique qui s'intitule Les Furtifs. C'est un best-seller déjà ?
Bah, on peut dire ça. On a passé les 100 000 exemplaires en moins d'un an. Donc oui, on est obligé de renoncer au statut d'artiste maudit et de se dire que oui, ça y est, on a fait un best-seller.
Et ça fait du bien de ne plus être maudit.
Ah, j'aimais bien la position maudite. J'aimais bien.
Sûr.
Je trouvais que c'était confortable en un sens. Mais bon, on est très heureux que les gens l'aient aussi apprécié. Ouais.
Alors moi, je suis très heureuse, Alain Damasio, de vous rencontrer, parce que vraiment, c'est pas simple de vous mettre la main dessus. J'ai beaucoup réfléchi à mes mots, et j'ai pensé que la main dessus, c'est exactement ce qu'il faut dire. On peut pas vous joindre, vous n'avez pas de portable, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de vous rencontrer.
J'essaie d'incarner un peu le livre, c'est une certaine furtivité, une façon de fuir en tout cas l'injonction à être joignable qui nous pèse dessus. Donc ouais, je suis pas facile à joindre. Mais ça m'aménage comme ça des petites poches de liberté, en tout cas d'échappatoire, sinon c'est plus possible.
Mais alors merci d'être venu ici en tout cas. Alain Damasio, vous avez choisi comme journée particulière le 4 novembre 1995. Ce jour-là, le philosophe Gilles Deleuze se donnait la mort.
La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça se fabrique pas comme ça. On se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité, sinon il n'y a rien du tout.
Alain Damasio, belle entrée en matière, c'était la voix de Gilles Deleuze, une définition magnifique de la philosophie. Quelle place a Gilles Deleuze dans votre vie, Alain Damasio ?
Bah, je peux vraiment dire que c'est la personne que je n'ai pas rencontré, qui m'a le plus influencé.
Vous ne l'avez jamais rencontré?
J'ai jamais rencontré. Malheureusement, il est mort avant que j'aie la chance ou le courage d'aller le voir. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller le voir, d'ailleurs. Mais c'est la personne qui, par ses livres, par ses conférences aussi, par sa voix, parce qu'on a gardé de sa voix, parce qu'on a les cours de Deleuze, a le plus infléchi la vie, ma vie, m'a le plus retourné, m'a le plus touché. Et a plus construit ce que je suis aujourd'hui.
Intellectuellement ?
Ah, intellectuellement, mais aussi, j'ai envie de dire physiquement, mais aussi dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux gens. C'est vraiment, ça a renouvelé, ça a complètement, je sais pas comment dire ça, ouais, conduit la vie que je voulais mener. Voilà, c'est quelqu'un dont les mots m'ont amené quelque part, un endroit où j'aurais pas été s'il avait pas été là et si j'avais pas lu ses livres. Donc ça a été très important, ouais, c'est, et ça reste très important pour moi. C'est quelqu'un que je relis en permanence, que je...
Qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui m'accompagne, vous accompagne.
Dont je relis sans arrêt des segments de livres, des paragraphes, des bouts de mots. Souvent je prends un de ses livres et puis je relis. Et à chaque fois je suis touché, et c'est des morceaux, des fois des segments que j'ai lus 50 fois. Mais à chaque fois je reviens dessus, et je trouve encore autre chose, et je trouve encore une nouvelle force. Donc... très précieux, Gilles Deleuze, pour moi, en tout cas, très décisif.
Vous avez sa voix en tête quand vous le lisez, parce ouais. que sa voix est très particulière.
Il a une voix, il y a un livre entier qui a été fait sur sa voix, d'ailleurs, il appelait la voix jaune. Mais,
une voix d'ogre aussi.
Ouais, on dit une voix d'ogre, mais moi je trouve que c'est surtout une voix qui a un grain extraordinaire. Et qui, au moment où elle attaque les concepts, là, on l'entend très bien quand il dit, consiste à créer des concepts. Et là, on sent qu'il vient mordre, c'est-à-dire que la voix vient mordre, vient attraper, vient serrer avec ses crocs ce qu'il est en train de penser. Donc tous les moments décisifs de sa pensée sont marqués par cette façon de mordre, mais qui est très belle. C'est plus un fauve, quoi. C'est plus un rapport de fauve à sa proie, mais là, sauf que ses proies sont des idées. Ouais.
Alain Damasio, vous étiez où, vous, le 4 novembre 1995, vous vous souvenez de...
Ouais, je me souviens très très bien, parce que c'était dans des grosses périodes de solitude que j'ai eues. J'étais à Aubenasson, qui est un tout petit village qui est dans la Drôme des Collines, près de Saillant, qui est devenu d'ailleurs un village connu parce que c'est un village très démocratique. Et j'étais en train de finir La Zone du Dehors, mon premier roman. Donc c'était un moment de ma vie très important parce que j'avais 25 ans et j'avais décidé que je voulais écrire. J'avais décidé que je voulais finir ce roman. C'est un roman qui m'a pris 3 ans et j'ai attaqué l'écriture quasiment directement sur un roman.
Ouais.
C'est-à-dire que j'avais fait quelques nouvelles, mais là j'avais décidé d'avoir cette ambition un peu dingue quand même, parce que c'était un roman énorme qui fait plus de 500 pages. Je connaissais personne, j'avais pas d'éditeur, je connaissais absolument personne dans l'édition, sauf une toute petite personne qui est dans le studio aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Mathias Echenet, et qui m'a beaucoup aidé après à trouver un éditeur, et qui après a décidé de m'éditer. Mais à l'époque, je connaissais personne, j'étais seul, et Deleuze m'accompagnait énormément, je le lisais énormément, et j'apprends sa mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'apprends qu'il est mort, et je me souviens, j'avais été avec mon petit scooter acheter Libération à l'époque pour lire l'article de Maggiori sur la mort de Deleuze. Et ça a été tellement un choc pour moi. C'était vraiment comme des gens auxquels on est extrêmement attaché, qu'on n'a pas vu qui meurt, que j'ai décidé de faire un texte à ce moment-là. J'ai fait un texte sur lui. Ce texte m'a aidé à passer cette mort, à passer ce deuil. Et je l'écris le jour même, en fait. C'est un texte qui s'appelait Appel d'air, comme ça.
Appel d'air, parce que vous trouvez que, vous pensez que Gilles Deleuze nous donne de l'air, il nous aide à respirer, c'est ça?
Absolument. C'est-à-dire que il a et un style et une pensée qui est une pensée extrêmement ouverte. C'est une pensée qui te projette vers le dehors. C'est une pensée qui te ferme pas sur un système ou une théorie. Si vous discutez avec un hegelien, il va, si vous voulez, ramasser tout le devenir du monde dans la pensée hegelienne. Quand vous lisez Deleuze, il vous enferme pas dans un mode de pensée, un mode théorique, mais il vous donne vraiment les moyens de penser ce monde-là et de le penser de façon ouverte. Et ça, c'est très rare. C'est très rare, les philosophes qui ne ferment pas, quoi, justement. Et surtout, Appel d'air, parce que il avait une maladie donc respiratoire, et il décide de sa mort. Il en avait parlé dans sa philosophie. Il avait dit c'est extrêmement important de décider le moment de mourir et d'en faire un acte libre. Et il a ce courage de se jeter par la fenêtre de l'avenue Niel et d'acter que ça y est, c'est le moment. Il a décidé que ce qu'il avait à vivre n'était plus intéressant, qu'il était passé du côté de la mort et que c'était lui qui décidait de ce moment.
En 1995, Alain Damasio, le groupe Cake reprenait le tube de Gloria Gaynor à Will Survive. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn.
break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? To give, I will survive. I will survive. I used to cry, but now I hold my head up high.
C'est votre genre de beauté, Alain Damasio.
Ouais, Cake. Ce que j'adore, c'est le phrasé. En fait, ça paraît tellement simple de chanter comme ça. On a l'impression qu'il chante de façon désinvolte, nonchalante. En fait, tout est calé par rapport au riff, par rapport au rythme. C'est tellement fluide. Et en même temps, tu te dis, c'est pas métrique du tout, quoi. C'est un temps qui est pas métrique. Très beau, très beau.
Vous avez une oreille de musicien, hein. Vous êtes un musicien.
Je sais pas si je suis un musicien, je pense que j'ai une approche très rythmique de ce que j'écris, très syntaxique, très physique, et forcément qui touche à des éléments musicaux, mais j'ai personnellement aucune culture musicale digne de ce nom. Hein, j'ai pas d'une famille musicienne. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que de façon immanente, des choses musicales sortent de ce que je fais. En tout cas, ça inspire beaucoup de... Beaucoup de musiciens, beaucoup de choses sont reprises à partir de mes livres. Et moi, je me suis mis aussi, voilà, à faire de la scène. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose à dire, mais je peux pas me revendiquer d'aucune sorte de musicalité, en tout cas culturelle.
Alors, le 4 novembre 1995, c'est votre journée particulière, Alain Damasio, sur France Inter. Ce jour-là, donc, le philosophe Gilles Deleuze se jetait par la fenêtre. Vous ne l'aviez jamais rencontré. Et pourtant, comme vous nous l'avez dit, c'est un homme qui a changé votre manière de penser, votre manière d'être, même au monde. Et il y a notamment un texte de Gilles Deleuze qui est fondamental pour vous, Alain Damasio. C'est Postscriptum sur les sociétés de contrôle, qu'il a écrit en 1990, un texte de 5 pages, ouais. qui vont changer votre vie.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce qu'il dit sur la création de concepts, c'est-à-dire qu'il arrive à créer un concept qui est ce concept de contrôle. Alors le mot existait avant, évidemment, il le reprend à William Burroughs, mais il en fait quelque chose de décisif parce qu'il montre que les régimes de pouvoir auxquels on est confrontés sont en train de muter, qu'on a vécu très longtemps sous le régime féodal, puis ensuite au 18e, 19e siècle, on a vécu sur ce régime disciplinaire qu'a très bien décrit Foucault et que Deleuze reprend et explicite très bien.
L'enfermement,
c'est-à-dire on exerce le pouvoir dans des milieux d'enfermement, type voilà asile, hôpital, école, usine, etc. Et on demande au corps de faire un certain nombre d'actes dans un temps donné, d'une façon donnée, avec un programme. Donc c'est une discipline qui porte comme ça sur les corps. Et Deleuze dit, ce régime de pouvoir est en train de muter profondément. Et le régime dans lequel on entre, c'est un régime de contrôle, c'est-à-dire que ça va être de la modulation et pas un moule, ça va être, comme il dit, des mots de passe et pas des mots d'ordre, et ça va être la crise des syndicats et la crise de l'éducation et la crise de beaucoup de structures de discipline des masses qui vont se retrouver démunies par rapport à cette fluidité, à cette liquidité de la société qui arrive.
Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais, par exemple, d'une autoroute, que là, vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute. Mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés. tout en étant parfaitement contrôlé. C'est ça notre avenir.
Alain Damasio, vous avez certainement reconnu, c'est un extrait de la conférence donnée par Gilles Deleuze en 87 à la FEMIS. C'est une réflexion prémonitoire. On est en 87. Gilles Deleuze prédit la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Puis ouais, 30 ans avant. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple l'exemple qu'il donne sur l'autoroute, on pourrait parfaitement l'appliquer par exemple au téléphone portable. C'est-à-dire que au départ, le but premier du téléphone portable, c'est évidemment de communiquer de façon interpersonnelle, c'est de pouvoir appeler quelqu'un qui t'appelle, que t'as une joignabilité comme ça omniprésente, et c'est devenu un outil de contrôle extraordinaire, c'est devenu un outil de traçabilité absolue puisqu'on est géolocalisé au mètre près aujourd'hui par les téléphones portables, et c'était en fait une espèce de d'effet secondaire ou de voilà de et on s'y attendait absolument pas. Et beaucoup de choses qu'a amené le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire ce monde numérique dans lequel on évolue, a eu pour effet secondaire de maximiser le contrôle de nos vies et la traçabilité de nos vies. Et ça c'était pas le but originel de ce régime-là numérique, mais il a été... Et on se rend compte que quand Deleuze annonce cesser de contrôle, on n'a même pas encore l'apparition des réseaux, puisque ça apparaîtra en 95, justement, ouais. Juste l'année de la mort de okay. Gilles Deleuze. C'est là qu'apparaissent vraiment les premiers téléphones portables et que se généralise l'Internet. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on rentre totalement dans ce régime-là, mais avec une puissance que même Deleuze peut-être n'avait pas pu anticiper. Donc, il y a une espèce de jonction, de fusion entre le régime de contrôle et le régime numérique qui était presque imprévisible. Mais comme tous les grands philosophes, il y a des intuitions. Voilà. Mais il y a une intuition extraordinaire. Il sent quelque chose qui se passe. Il y a une porosité aux mouvements sociaux, aux mouvements politiques, qui fait qu'il arrive à dégager un concept avant tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'avant tout le monde, il dégage le concept dont moi j'avais besoin. Il me donne une arme. Et comme il dit, voilà, les grands livres, c'est des armureries. On entre à l'intérieur comme dans les armureries. Et l'armure, l'arme en tout cas, c'était de pouvoir lire ce régime dans lequel moi, je me sentais aliéné complètement. Moi, au départ, j'ai 25 ans, je sors d'une grande école de commerce. Je devrais me sentir parfaitement libre, maître du monde. Ouais. On me disait dans mon école, vous allez être manager du futur, etc. Donc, tout était fait et construit pour que, voilà, de façon très sereine, j'empoigne ce monde, j'exprime ma liberté dans ce régime capitaliste, etc. Et en fait, je sentais exactement l'inverse. C'est-à-dire que je me sentais totalement emmailloté, entretissé.
Déjà en 95.
Englué, j'avais l'impression que j'avais un bulbe de glu dans lequel j'essayais de nager, j'essayais d'évoluer. Et je lis ce texte et je me dis, ça y est, j'ai compris, quoi. Parce que j'étais prisonnier de cette logique de dire, mais non, mais le pouvoir, c'est l'armée, c'est la police, ce sont les médias, ce sont les chefs. Non, c'est un régime qui va être beaucoup plus sournois, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus souple, beaucoup plus horizontal. Et c'est le régime dont on relève aujourd'hui.
Et c'est ça aussi, ce texte-là de Gilles Deleuze, j'imagine, vous a beaucoup inspiré pour construire, imaginer cette société que vous décrivez dans votre dernier livre,
Bien
Les
sûr,
Furtifs, parce que
déjà, ouais.
c'est ça qu'on lit, c'est-à-dire on est juste un tout petit peu plus loin que là où on est aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas sûre que ça soit de la science-fiction.
Moi je dis, voilà, j'hypertrophie, encore hypertrophie c'est un mot très fort, mais
présent hypertrophié, c'est ça.
Voilà, j'hypertrophie le présent, mais c'est plutôt que je mets en relief des toutes petites excroissances du terrain que je pousse pour en faire des montagnes. En tout cas, j'essaye d'accroître les creux et les bosses de la surface sociale dans laquelle on évolue. Et ça rend visible des choses qui aujourd'hui sont pas réellement visibles. C'est-à-dire qu'on le sent, mais, et c'est le but de la science-fiction. C'est un des grands rôles de la science-fiction. Son rôle d'alerte, son rôle de rendre visible. Moi, je utilise toujours ce terme de Paul Klee, mais il dit, voilà, on ne peint pas le visible, on rend visible. Mais l'ASF, c'est ça. On ne peint pas le visible social ou politique. On essaye de le rendre visible en poussant un certain nombre de curseurs.
Alors, vous le rendez visible avec une ville privatisée, propriété des multinationales. À la place des téléphones, tous les personnages du roman, sauf le héros, ont une bague connectée. Donc, c'est pire que le téléphone. C'est un tout petit peu plus loin que le téléphone.
En fait, c'est une optimisation de l'ergonomie actuelle qu'on voit déjà apparaître dans les montres connectées.
Hein, j'ai vu ça.
C'est-à-dire que moi j'appelle les U-bijoux parce que c'est le don d'ubiquité qu'ont ces objets connectés. On est partout à la fois grâce à eux. Et l'idée est très simple. On a un piercing dans le nez qui sert de micro parce qu'on est tout le temps en train de parler. On a une oreillette, c'est un tout petit boucle d'oreille sur l'oreille qui évite d'avoir ce casque volumineux que les gens ont et qui est un peu ridicule aujourd'hui. Et puis, on a la bague qui sert à la fois de disque dur, mais aussi d'outil de paiement, d'identification, etc. Et qui sert d'outil de vidéoprojection aussi, puisqu'il n'y a même plus d'écran, la bague est capable de projeter sur n'importe quelle surface lisse. Donc c'est simplement de dire, voilà, avec la miniaturisation de ces objets, avec cette logique de fluidité, de design, etc., je pense qu'on arrivera un jour, effectivement, à des bijoux. Puis j'aimais bien la bague, parce que c'était vraiment cette blague de un seul anneau pour les gouverner tous, quoi. Ouais, mais sauf que c'est nous-mêmes qui nous gouvernons, c'est l'auto-addiction, l'auto-aliénation qui est notre principale source de gouvernance. Donc c'était de dire, voilà, cet outil intime, enfin, en tout cas, cette bijou intime va devenir à la fois la matrice de la fluidification de nos vies et la matrice de notre aliénation.
Mais ce qui m'a fait, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'il n'y a plus rien de commun dans votre roman. L'espace public n'existe plus. Même le réel n'est plus commun. C'est-à-dire que chacun a son réel à soi.
Bah, j'ai essayé de pousser cette logique qu'on voit malheureusement à l'œuvre depuis une trentaine d'années très fortement, enfin en tout cas depuis que je suis né, c'est-à-dire que le capitalisme avancé essaye de trouver sans cesse de nouveaux marchés, essaye de monétiser ou de marchandiser des choses qui échappaient jusqu'ici à son contrôle, et notamment l'éducation nationale par exemple, mais également la culture, mais également le sport, etc. Moi j'ai vu, j'avais 20 ans dans les années 90, j'ai vu apparaître tout un ensemble de secteurs qui se sont fait prendre par cette logique libérale. Et je me dis, bah, jusqu'où on peut aller? On peut aller jusqu'au réel. C'est-à-dire que le réel aujourd'hui, c'est un peu quelque chose de commun. Vous êtes sur une place avec des gens, vous voyez globalement la même chose. Bah, si vous êtes en réalité ultime, comme dans le livre, bah, vous pouvez ajouter à ce réel ce que vous voulez, et vous avez un réel personnalisé, customisé juste pour vous. Mais ce qui fait qu'on partage même plus ce qui est vu ensemble.
Les 4 prochaines sorties du périphérique sont actuellement inaccessibles. Prochaine sortie disponible, cœur de ville.
J'en viens du cœur de ville. Je veux sortir, capitaine. Trouve une alternative.
Il n'y a pas d'alternative. La seule sortie disponible est cœur de ville.
Change ton IA, connard!
Capitaine, qu'est-ce qui se passe exactement?
Je vous connecte au réseau d'informations pertinents.
La gouvernance se refuse pour l'instant à parler de tragédie. La jeune fille aurait été retrouvée dans une mare de sang au beau milieu d'une rue privilège.
Prie-moi le flux par fraîcheur.
Temps réel.
Le trafic est bloqué sur toutes les voies rapides de la ville en raison de manifestations spontanées et violentes.
Il y a 2 minutes.
Une jeune fille de 24 ans, du nom de Liv Bekti, aurait été interceptée par un drone hier à 8h16 dans la rue Martin Luther King. Disposant d'un forfait standard, son statut ne lui donnait normalement pas accès à cette rue labellisée premium.
Il y a 4 minutes. Tara Blog.
Elle est coupée par une rue interdite. N'importe qui aurait fait ça à sa place. Elle allait accoucher, vous vouliez qu'elle fasse quoi? Un détour de 3 km?
Il y a 7 minutes.
Les circonstances du drame sont encore inconnues, mais il semblerait qu'un drone ait attaqué Liv Bekti à l'arme sonique, causant une hémorragie interne et un accouchement prématuré. Le bébé est sauf et son père est à son chevet.
Il y a 8 minutes.
La police réfute toute accusation de bavure, mais selon nos premières informations, le drone qui a tiré serait un prototype israélien utilisé à Gaza pour débusquer les attentats suicides.
Flash temps réel.
La police recherche activement l'unique témoin de l'accident. Il s'agirait d'un homme âgé d'une quarantaine d'années qui aurait filmé l'attaque du drone au Bright Phone.
Barrage de police à 800 mètres. Veuillez préparer vos documents citoyens. Merci par avance de votre coopération qui favorisera la fluidité du trafic.
Alain Damasio, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est une fiction que vous avez écrite, hein, fragment hacké d'un futur qui résiste.
Ouais, c'est une fiction que j'ai faite justement avant le roman Les Furtifs, qui est une sorte de préquel pour moi du roman. C'est-à-dire qu'on a travaillé l'imaginaire du livre avec Florian Pochon et Tony Regnault.
Du collectif Tarabuste.
Voilà. Et on avait décidé de mettre en son. Voilà. Ce monde, ce deux mondes de 2040, cette ville. Et c'est cette ville découpée.
Cette ville découpée avec les rues labellisées, voilà, hein, rues labellisées premium, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas passer par les mêmes rues, ça dépend de votre forfait.
Exactement.
De combien vous payez.
C'est l'idée que la ville a été privatisée, c'est-à-dire que la ville n'est plus un espace commun, n'est plus un espace partageable par tous, et que si vous avez un forfait privilège, donc vous payez un peu plus, ben vous avez accès à 100% des rues de la ville, des squares, des parcs, mais si vous avez un forfait standard, ben vous êtes bloqué à en gros 50-60% des rues, des avenues, des parcs.
Et dans
vous
les allez embouteillages dans, aussi.
Vous êtes dans les embouteillages tout le temps, puis vous allez dans les parcs avec vos enfants où c'est saturé de gamins parce que vous ne payez pas assez. Donc c'est cette idée, voilà, que même l'espace de la ville qui pour aujourd'hui, c'est une évidence pour nous qu'on peut circuler n'importe où dans Paris, en gros, hein, ouais. Parce qu'il y a déjà des espaces qui sont un peu privilèges. Mais globalement, normalement, toutes les rues nous sont accessibles. Eh ben non, ça va être fini et on va essayer de hiérarchiser à nouveau et de rendre inégalitaire à nouveau l'accès à la ville. Ouais.
Alain Damasio, vous disiez qu'en 1995, justement l'année de la mort de Gilles Deleuze, c'était aussi l'année de l'émergence des nouveaux réseaux de communication et d'Internet. Je vais vous faire écouter cette archive, elle est très intéressante. Vous allez entendre la naïveté, ce qu'on a cru.
Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement, environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison-Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet.
Des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout.
L'accès à toutes ces informations est gratuit. C'est l'un des principes de base d'Internet. De même, l'absence de chef. La plus grande liberté règne sur le réseau. Certains parlent déjà de la naissance de la démocratie électronique.
Alain Damasio, on était loin de penser que ces nouveaux outils nous contrôleraient. Vous avez vu ce ton, cette voix enjouée, on pensait.
Ouais, mais c'est qui
l'avènement de la démocratie.
Ouais, mais il est complètement justifié, je trouve, à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une utopie extraordinaire. Enfin, l'accès généralisé à tout type d'infos, c'était quelque chose de fascinant. Et ça reste fascinant aujourd'hui, par exemple, grâce à Wikipédia, où on accède quasiment à n'importe quel texte, n'importe quel livre, n'importe quelle musique, n'importe quel film, si on pirate un tout petit peu. Donc, on a un accès extensif à la culture qui reste fascinant, pour moi, qui reste un outil de liberté magnifique. Mais ce qu'on n'avait absolument pas anticipé, c'est que, par exemple...
Ça serait un liberticide consenti.
Ça serait un liberticide consenti, au sens où, par exemple, ça allait générer cette économie de l'attention... où on est obligé, pour vous financer les contenus qu'on vous fournit soi-disant gratuitement, de les entourer et de les emmailloter de pubs en permanence. C'est-à-dire qu'on capte votre attention, on manipule votre attention, on la récupère, on la recycle, et surtout on recycle toutes vos traces et tous les actes que vous faites sur le réseau pour ensuite en faire des outils de monétisation des profils. Donc cette économie-là, souterraine, et qui est devenue l'économie numéro un aujourd'hui, elle était absolument pas anticipable. On n'allait pas se rendre compte que l'or gris de cette nouvelle économie allait être la trace, quoi. Donc c'est très dur à anticiper, ouais.
Alors votre dernier roman, Les Furtifs, l'acronyme c'est?
Fuir un réseau trop intrusif, fuir. Tout simplement.
C'est ça.
Ouais, on pourrait le résumer à ça. Mais je dirais que c'est l'aspect, négatif ou en tout cas anti-utopique du livre. L'aspect positif pour moi, c'est l'incarnation de ce que j'appelle moi la plus haute forme du vivant. C'est-à-dire, c'est des êtres qui
se parlent entre eux, déjà, où il y a de l'altérité à nouveau.
Qui sont faits de chair et de son, qui sont surtout constamment en composition avec l'environnement. C'est-à-dire que constamment, ils utilisent l'environnement pour modifier la forme de leur corps, pour se transformer, pour se métamorphoser. Donc, c'est-à-dire que c'est une ouverture permanente au monde. Et la capacité à se renouveler tout le temps.
Et là, vous parlez des furtifs. Voilà, vous parlez de furtifs. Ces êtres de chair et de sang. Hein,
ouais, complètement.
Qui peuplent votre livre.
De A à Z, on peut dire.
Et qui sortent du contrôle.
Ah bah c'était le. Enfin mon rêve, voilà, mon rêve au départ quand j'ai lancé ce livre, c'était de me dire mais comment on peut échapper à cette société de traces, quoi, parce que. Voilà, moi je considère que la société de contrôle décrite par Deleuze a migré vers un aspect encore plus fin, mieux maillé, plus pervers encore, qui est la société de traces. C'est-à-dire que même les traces individuelles les plus minuscules, n'importe quel chat, n'importe quel mail, n'importe quel clic sur le réseau, n'importe quel like, n'importe quel scroll, tout ce que vous faites produit de l'information, donc cette information est récupérable, donc cette information est utilisable. Presque contre vous, enfin, j'ai envie de dire, voilà. Alors, on vous dit, oui, mais ça vous permet de personnaliser les choses, bien sûr. Mais, en réalité, donc, par rapport à ça, bah, les furtifs, ça serait, qu'est-ce qui peut échapper encore à la trace, quoi, voilà. Qu'est-ce qui peut être encore intraçable? Quel est l'intraçable possible? Et donc, la science-fiction, c'est d'essayer d'incarner dans des êtres de chair et de son, cette intraçabilité, ouais.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né, à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques.
Alain Damasio, vous connaissez les paroles par cœur de cette chanson,
ouais,
de Bachon.
Pour moi, c'est une des, enfin, des mieux écrites. Il y en a beaucoup des très bien écrites de Bachon avec son parolier dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais dans celui-là.
Jean Fouque.
Jean Fouque, ouais. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Ça, j'adore. Ça, c'est vrai.
Ça vous parle.
Ah ouais.
Vous aussi, vous faites des saisons dans votre boîte crânienne, Alain Damasio.
Ce qui est marrant, c'est que ce titre, il fait un peu en jonction dans ma vie, au sens où j'ai habité 4 ans le Vercors. C'est là que j'ai commencé à écrire la Horde du Contrevent. C'est là que j'ai préparé tout le livre de la Horde. C'est là que j'ai fait énormément de rencontres aussi, que j'ai eu la vie sociale la plus intense. Donc, c'était une chanson un peu référence là-bas, dans le Vercors. On se la chantait souvent. Et puis, il se trouve que des années plus tard, j'ai rencontré Yann Péchin, qui a été le guitariste de Bachung donc pendant 10 ans, qui a fait toute la tournée des grands espaces, qui était très proche d'Alain Bachung, et avec qui j'ai composé l'album pour les furtifs qui s'appelle Entrer dans la couleur. Donc il y a une espèce de lien comme ça qui se fait, et j'admire beaucoup Jean Fauque. Je trouve que ce parolier, alors j'ai appris après grâce à Yann Péchin comment il travaillait, mais les versions des textes ont été itérées de très très nombreuses fois. En fait, Jean Fauque arrivait, donnait une version à Bachung, qui retravaillait, ils retravaillaient ensemble, puis refaisaient notre version. Il y a peut-être V8, V9, V10, il y a... Ouais. Et à la fin, c'est quelque chose d'incroyablement ciselé, avec une polysémie très grande, très profonde, qui s'épuise pas comme ça. Rien que le t'accaparer, seulement t'accaparer, moi je l'adore, parce que c'est dire, voilà, je veux t'accaparer en tant qu'amour, et j'aimerais te prendre, j'aimerais t'avoir pour moi, et en même temps, il lui dit, tu n'accaparer cet accaparement, donc t'accaparer... Et il dit tout en, voilà. Et t'as l'impression qu'il répète juste le même mot, mais non, en fait, il dit, voilà, moi, j'ai envie de t'accaparer, mais fais tout ce que tu peux pour parer cet accaparement, tu vois.
Et là, ça, on retrouve des choses de votre langue. On retrouve des choses, Alain Damasio, de votre langue.
Et les gens vont dire, oui, c'est des jeux de mots. Non, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort qu'un jeu de mots. C'est-à-dire que en répétant deux fois les mêmes phonèmes, tu dis une chose essentielle sur le rapport amoureux. C'est splendide, vraiment.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est toujours la journée particulière d'Alain Damasio, écrivain de science-fiction. On a beaucoup parlé de votre univers, de l'univers des furtifs, de l'aspect politique de votre livre, mais c'est aussi un grand livre d'amour.
d'amour parental, d'amour filial, et un livre d'amour de la langue, un livre poétique.
Oui, je pense que c'est... Certains l'ont résumé comme ça, mais moi j'aime bien les gens qui ont dit ça et qui disent c'est une histoire d'amour, tout simplement.
Ah ouais.
Alors c'est, ça fait rire quand on lit le livre, parce que c'est évidemment...
700 pages d'histoire d'amour.
C'est un livre vraiment de SF politique, d'anticipation, de dystopie, d'utopie, etc. Donc il y a beaucoup de... C'est socialement très structuré, etc. Et pourtant, pour moi, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour, bien sûr, d'un père et d'un couple pour leur fille. Donc c'est là, pour le coup, très biographique pour moi. Mais c'est aussi l'histoire de l'amour du vivant, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est l'histoire de l'amour de ce que l'animal, de ce que le végétal, de ce que la bactérie, de ce que le champignon peut nous amener. Et l'amour.
Parce que les furtifs, ils sont tout ça à la fois.
Ils sont à la fois animaux, végétaux, minéraux, bactériens, champignons. Toutes les formes de vie sont présentes en eux. En tout cas, ils peuvent les métaboliser. Et moi, je me vis vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que dans le ventre, on a un microbiote de bactéries extraordinaires. On a quasiment 5 kilos de bactéries qui vivent à travers nous, qui nous constituent. On sait même maintenant que peut-être que certains types de dépression viendraient de la façon dont ce microbiote fonctionne. On est tissé au vivant en permanence par l'air qu'on respire et qui vient des déjections des plantes, comme le dit très bien un philosophe du vivant, Baptiste Morisot. C'est-à-dire, on respire les déjections des plantes. Et il dit, c'est ça le cycle du vivant, c'est que souvent, on est les animaux qui avalons ou métabolisons la crotte ou le caca des autres. Et nous, on respire le caca des plantes, mais c'est ces cycles-là qui font la beauté je trouve, du vivant. Donc ce tissage au vivant, pour moi, est fondamental. Mais c'est un livre d'amour de la langue parce qu'on peut pas traduire tout ça dans le médium de l'écriture s'il n'y a pas aussi cet amour qui se transcrit vraiment dans les mots, dans la syntaxe, dans les phonèmes.
Dans le rythme. Dans les sons. Et alors là, je vais vous... Encore Deleuze, qui certainement vous a influencé dans votre écriture.
Alors, qu'est-ce que c'est que le style d'un grand auteur? Moi, je crois que le style, il y a deux choses dans un style. On fait subir à la langue dans laquelle on parle et on écrit, on fait subir à la langue un traitement syntaxique, original. Ça peut être, alors, mettons... On retrouve le thème de l'animal. Ça peut être faire bégayer la langue. Je veux dire, pas bégayer soi-même, faire bégayer la langue. Ou, ce qui n'est pas la même chose, faire balbutier la langue. Donc, c'est ça le premier aspect. Faire subir à la langue un traitement, mais un traitement incroyable, quoi. C'est pour ça qu'un grand styliste, c'est pas un conservateur de la syntaxe, hein. C'est un créateur de syntaxe. Et moi, je ne sors pas de la formule si belle de Proust. Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. Eh bien, en même temps, le deuxième point, c'est que par là même, on pousse cette fois-ci tout le langage jusqu'à une espèce de limite. Le bord qu'il sépare de la musique. On produit une espèce de musique. Bon, et ben si on réussit ces deux choses-là, et s'il y a nécessité pour le faire, c'est un style. C'est ça les grands stylistes. Creuser dans la langue une langue étrangère et porter tout le langage à une espèce de limite de musicale.
Alain Damasio, ça parle de vous. Gilles Deleuze parle de
c'est
vous.
C'est tellement dur de parler après ça, c'est tellement parfait.
Vous faites bégayer, vous faites balbutier la langue, vous la ça, travaillez comme une langue étrangère, vous êtes à la limite du langage et du son.
Ça, je peux vous dire que ce moment-là, ce texte-là qui est repris dans Pourparler, ça a été, je parle des post-scriptums, mais ça a été décisif dans mon devenir d'écrivain. Mais je pense que j'ai mis 30 ans à juste approcher ce qu'il dit là. C'est-à-dire à approcher la capacité à creuser cette langue étrangère dans la langue et à approcher ce bord extérieur, ce bord qui fait basculer la langue vers un dehors, quoi. Et c'est ce que j'ai tenté, alors je sais pas, après c'est au lecteur de dire si c'est réussi ou pas, mais ce que j'ai tenté avec Tishka dans Les Furtifs. Moi, ma
plus grande fierté... Alors Tishka, il faut dire qui c'est. Ouais, Tishka, c'est cette petite fille qui a été enlevée par Les Furtifs, que ses parents recherchent, hein, et qui, à force de vivre avec Les Furtifs, devient elle aussi un peu furtive et commence à parler une autre langue.
Voilà.
Une langue furtive, autre chose.
Et pour moi, c'était le plus difficile du livre. C'était la chose que j'avais une terreur bleue de rater, c'est-à-dire que je voulais hybrider la langue vers un dehors, c'est-à-dire que je voulais qu'on sente dans le langage de Tichka cette ultra haute vitalité et cette ouverture poétique qu'elle avait trouvée avec Les Furtifs. Et ça a été très extrêmement difficile à trouver. J'ai fait beaucoup de recherches avant de... Et en réalité, j'ai trouvé la forme de façon extrêmement intuitive au moment où je suis arrivé sur le personnage, où le personnage est arrivé. Et c'est peut-être ma plus grande fierté dans ce livre, c'est d'avoir atteint un point où, à des moments, alors pas partout, pas tout le temps, parce que c'est tellement difficile, on est sur une ligne de crête et on borde toujours le vide. C'est-à-dire que le vide et le chaos, c'est le moment où ce que vous écrivez n'est plus compréhensible par le lecteur. C'est-à-dire que vous basculez de l'autre côté et ça transmet plus rien, c'est juste des sons.
Mais là, ça transmet.
Et là, c'est comment transmettre encore du sens, encore du signifié, tout en étant sur le bord extrême de la langue. Donc c'est ce que j'essayais de faire.
Alors, j'ai envie d'en lire un tout petit bout justement de cette langue de Tichka. Elle parle avec sa maman à ce moment-là et elle dit « Ma langue sourche, maman, je fais le mieux. » Et alors sa mère lui demande « Tu entends quelle voix ?» Et elle répond « Nous les fifs, on sent les frissonnes de tout ce qui fouge, vit. On tend leur musique. Je tends la musique du riz qui pousse. Je sangue comme un ragondin sonne, une truite. Comme tu symphonises, toi, papa aussi. Mais depuis, le cosmonde, ça monte aussi par les mots, ça teinte en motte dans l'esprit, sa phrase. » Sa mère lui demande, tu entends des phrases qui coulent dans ta tête, comme si le frisson des gens t'arrivait traduit en mots? C'est fatigassant. Parfois je ferme, mon crâne. Parfois j'aime cette flûterie. Ça me truffe de l'intelligence.
Ouais, mais quand je le réécoute, je tu vois, si on veut aller vraiment au bout des choses, c'est là que c'est extrêmement difficile, c'est que il reste encore des segments qui pour moi sont trop techniques encore dedans, tu vois, c'est-à-dire que
oui, je vois bien.
Il y a des moments où il y a de l'artisanat où on voit, c'est comme sculpter un morceau de bois et on voit les coups de couteau encore à certains moments. Il y a des moments de pure grâce, voilà. Et c'est le mélange des deux, mais c'est ça qui est génial, c'est que on est des artisans, on avance, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses très gracieuses, il y a des choses magnifiques, et il y a des choses où on sent encore la sueur et le travail, et j'espère encore faire mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, ce dehors du langage, il y a certains moments où on bascule, il me semble.
Ah, on bascule.
Vers là-bas.
Voilà. Et moi, j'entends la voix de Tichka. J'ai une voix pour Tichka, un peu lointaine, comme un écho avec de l'écho,
je pense
un peu métallique.
C'est la syntaxe aussi là-dessus qui joue, qui
fait qu'on entend. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans votre livre, il y a 6 personnages, chacun a sa langue, sa manière de parler, une calligraphie différente pour chacun d'eux. Ouais. Pas de narrateur, chaque personnage prend la parole à tour de rôle, c'est un texte polyphonique. Et ça, c'est aussi extraordinaire, ce que vous avez réussi à faire.
Alors ça, c'est ce que j'avais déjà commencé à mettre en place dans la Horde, mais cette idée que pour qu'un personnage existe vraiment, il doit avoir son registre de langue, qu'il soit familier, argotique, élégant, etc. Il doit avoir sa syntaxe, qu'elle soit longue, ondulante, oscillante ou au contraire très serpée, très hachée. Il doit avoir son registre de phonèmes aussi. C'est-à-dire, pour moi, il y a des couleurs de son que j'ai attribuées. Et là, il y a vraiment un travail très, très lourd en amont pour attribuer, par exemple, des A, des O et des O à un personnage comme Agüero, alors que pour un personnage comme Ner, qui est le traqueur optique, je vais avoir des I, des U, je vais avoir des stridences beaucoup plus fortes, beaucoup de sifflantes. Et ça, tu définis en amont, mais comme un musicien qui dirait, cette partie, elle va être dévolue à la basse, cette partie, elle va être dévolue à la contrebasse, celle-là, à la guitare acoustique, etc. Il y a une dimension de sonorité qui va être préparée, aménagée. Donc là, je fais un gros travail amont là-dessus. Et après, je me laisse beaucoup de liberté, par contre, au moment où j'écris, parce que sinon, c'est trop enfermant. Mais on a une dominante, voilà. Et quand on lit, je pense qu'on sent, cette syntaxe, on sent ce registre.
Ah oui, on reconnaît les personnages sans qu'ils soient nommés.
Et on a ajouté en plus cette couche typographique, là où il y a des signes spécifiques, il y a une ponctuation spécifique à chaque personnage, qui fait que de façon optique, visuelle, tu peux reconnaître aussi à qui tu as affaire.
Alors moi, en vous écoutant et en vous lisant Alain Damasio, j'ai pensé à Novarina, bien sûr.
Ah oui.
Souviens-toi des langages que tu ne comprenais pas. Souviens-toi que ta mère te chantait une chanson hongroise dont elle savait plus très bien les paroles, mais qu'elle te chantait régulièrement. Souviens-toi des langues incompréhensibles. Souviens-toi des sons. Souviens-toi que le langage n'est pas que au tiède de la communication. Il n'est pas que échange marchand d'un signe contre un autre, etc. Enfin, il y a une sorte de chair de la langue dans lequel on est, immergée tout autant que dans notre corps. Enfin, c'est notre, comme si le langage était notre sang, notre chair. On est fait de ça, enfin, totalement, enfin, autant que du corps. Je voudrais mettre la langue française, la sortir des dictionnaires, de la langue académique, de répertorier, sortir du littré, du Robert, et la remettre dans un état de floraison, la remettre dans un état printanier. Voilà, c'était refaire fleurir notre langue, retrouver la joie de parler, pas subir les mots, mais aussi pouvoir en créer, se tirer de toute situation en inventant un mot, en changeant de mode. Le langage nous tire de tout.
Je vous vois hocher de la tête, ensemencer la langue et la rendre printanière. Des heures.
Bon, Novarina, voilà. Novarina, pour moi, c'est le plus grand. Voilà, il y a un génie contemporain en langue française, c'est Novarina. Il faut le dire. Les gens le savent pas assez. Il y a plein de gens encore que je rencontre qui connaissent pas Novarina. Lisez-le. C'est juste en termes de créativité syntaxique le sommet de ce qu'on peut faire. En termes de néologisme, en termes d'inventivité, en termes, comme il le dit, de rendre la langue printanière, la langue floribonde, de rendre la langue, et de retrouver ce plaisir, cette richesse incroyable de nommer, d'inventer des mots, des noms, de les faire se déployer. Novarina, il est au sommet de ça, voilà, c'est tout, quoi. Et ça fait partie des auteurs que je lis, que je relis, qui m'ont profondément appris des choses. Et il n'y en a pas tellement, finalement, des auteurs qui apprennent des choses, que beaucoup d'auteurs écrivent sur une langue que je trouve relativement standard, comme disait Duras, il y a beaucoup trop de livres qui sont des livres moyens, qui sont des livres, qui sont pas des livres réellement singuliers. Mais quand on a Novarina, bah alors là, ça y est, on a compris que la langue, ce que la langue peut, quoi.
Solo ni me. journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alain Damasio, bon, je pourrais vous écouter parler des heures de la langue, de littérature, de poésie, de son et de musique, mais bon, c'est là bientôt la fin de cette émission. Alors toujours dans la dernière partie de l'émission, je propose à mes invités des choses qui se sont passées cette année de la journée particulière en 95. Donc en 95, Gilles Deleuze disparaissait, c'est votre journée particulière. En 95, Jean Tardieu aussi et Patricia Highsmith disparaissaient aussi. En 95, Ophélie Winter chantait « Dieu m'a donné la foi », je pense que ça vous plaît.
Je me souviens.
« Les innocents colorent » et P.J. Harvey chantait ça.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm old. And now I holler. She'll never know just what I found. Blue-eyed girl, she said no more.
Alain Damasio, vous écoutiez ça en 95, P.J. Harvey?
Ouais, j'aime beaucoup P.J. Harvey, j'ai écouté beaucoup de choses d'elle. Ouais.
Vous aimez sa voix?
Ah, j'adore la voix, et puis la simplicité derrière des lignes mélodiques, mais qui permet à la voix de sortir et d'avoir son grain. J'adore Cat Power aussi dans le même registre.
J'imagine. Ouais. En 95, évidemment, impossible de passer ça sous silence quand on vous reçoit, Alain Damasio, c'est le plan Juppé. Le plan Juppé qui provoque la colère des Français et les grandes grèves.
Et les grandes grèves, ouais.
De 95.
Descendre dans la rue et socialement c'est enrichissant de rencontrer les gens et de leur expliquer nos problèmes et c'est vachement enrichissant quoi. Et moi je suis persuadé que c'est dans la rue qu'on aura tout ce qu'on veut. Il faut descendre, il faut être nombreux, il faut que les gens le comprennent ça. Et moi je sais que plus ça va et plus je suis comme ça.
Et la sécu, aux travailleurs, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu.
D'un côté, on nous dit il faut que vous ayez des 40 années d'annuité au lieu des 37 ans et demi. Nous, on pense quand même que si on veut donner de la place aux jeunes dans l'avenir, eh bien, c'est pas en augmentant le nombre d'annuités, surtout que les jeunes aujourd'hui vont peut-être à l'école. Si on les laisse aller à l'école jusqu'à 25 ans, ils auront la retraite à quel âge ?
95, oui. Alain Damasio, ça résonne fort. Faut descendre dans la rue, comme disait.
Il faut descendre, mais encore plus qu'en 95, parce que c'est encore bien pire ce qui nous arrive et bien pire ce qu'ils veulent nous faire. Donc, 25 ans après, on se dit waouh, ils étaient déjà prêts, mais nous, il faut qu'on soit encore plus prêts. Et puis là, en plus, on a un gouvernement qui écoute absolument plus la rue, donc il faut être encore plus nombreux. Ouais.
Avant de se quitter, je voulais que vous me lisiez un passage de votre livre, page 518, ce que j'ai entouré, si vous voulez bien. Je trouve que c'est une bonne façon de conclure.
Ah, sur le comprendre ?
Ouais. Ouais.
Comprendre qu'ils te veulent libre pour mieux te contrôler. Que chaque bague qui lui laisse une trace sur les cartes qu'il compile. Cours, camarade, les yeux mondes sont derrière toi. Comprendre ton statut d'épluchure pour les pores du pig data. Comprendre ce qui nous séduit. Où l'on nous conduit et que tu es leur produit. Alors sur les réseaux en torero s'effacer, ressusciter l'angle qu'on croyait mort, juste passer, se découvrir furtif. Hop.
Merci Alain Damasio, c'est fini, c'est triste. Merci d'avoir passé cette heure.
Merci beaucoup, c'était génial.
Cette heure avec nous, votre livre donc Les Furtifs que je conseille à tout le monde est publié aux éditions La Volte. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, Alina Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard, merci. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.